avec Benoît Marcherin.
Bienvenue, bienvenue pour le 90e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode, l'édito, le segment principal qui sera consacré à une rencontre avec Henri Rossier, et le dernier segment avec vos commentaires et vos réactions. Notez dès à présent l'adresse du blog www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez poster un commentaire, suivre les liens, demander vos badges ou vous abonner. Et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, en particulier l'abonnement iTunes, tous les agrégateurs RSS, donc y compris Google Reader, Netvibes, Wikio et les autres, ainsi qu'un abonnement par email. Premier segment, l'édito. Pour vous dire que j'ai acheté une perche micro. Alors c'est une idée de Baptiste. Vous vous souvenez du duo à la Nikon School? Je suis revenu avec un mal de bras d'avoir tenu le micro à bout de bras toute la journée. Baptiste me dit, il faut prendre une perche micro, t'auras plus le problème. J'ai découvert que mon fabricant préféré de matériel photo faisait également dans l'audio, donc j'ai acheté une paire Jitsu. Alors elle est vraiment superbe, avec tous les derniers perfectionnements dans le système ALR anti-rotation, ce qui fait qu'on peut la déployer très très rapidement, c'est une merveille. Mon trépied est un peu plus ancien, donc il n'a pas toutes ces choses-là, c'est magnifique. Et ça m'a aussi donné une excuse pour me replonger dans le catalogue de ce fabricant que j'aime beaucoup, qui mine de rien est très très innovant. Ils fêtent leurs 90 ans cette année, et ils viennent de sortir un trépied concept, un petit peu comme il y a les concept cars, ils font des trépieds concept, en titane, donc carbone et titane. C'est vrai qu'on parle beaucoup des derniers logiciels, des derniers boîtiers, etc. Vous savez que j'adore les trépieds, donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à suivre l'évolution sur ce secteur-là aussi. Deuxième segment, une rencontre avec Henri Rossier. On continue dans la série sur le flash et de façon plus générale dans l'éclairage. Dans cette interview, vous allez l'entendre, Henri va nous donner plein de conseils et plein d'astuces pour constituer un vrai petit studio photo à peu de frais. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir l'auteur du livre Éclairé pour la prise de vue. Bonjour Henri Rossier.
Oui, bonjour Benoît.
Moi j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois sur le podcast, je trouve que ce livre Éclairé pour la prise de vue est vraiment très intéressant. Je trouve que c'est un des tout meilleurs bouquins sur l'éclairage en français, parce que tu montres avec des techniques très simples, sans nécessairement aller chercher dans du matériel très sophistiqué, comment construire des images qui sont vraiment professionnelles, très propres dans la construction?
C'est-à-dire que, moi j'ai été professionnel pendant 40 ans, j'avais mon studio, évidemment, avec tout du matériel professionnel, parce qu'on est obligé, quand on est professionnel, d'avoir un matériel professionnel vis-à-vis du client. On ne peut pas se bricoler avec des bouts de tissu, des choses comme ça. Et puis surtout, le matériel professionnel, ça va plus vite, c'est plus pratique. Mais une fois qu'on a compris le principe, on peut très bien improviser avec d'autres éclairages qu'on a chez soi, des lampes de bureau, des petits spots halogènes, des miroirs de maquillage, des choses comme ça, voyez. Parce qu'en gros, il y a trois sortes d'éclairage en studio. Il y a l'éclairage spot, qui fait éclaire juste une partie. L'éclairage qu'on peut appeler flood ou flood, donc c'est les grands réflecteurs ronds avec une ampoule dedans. Et puis la lumière diffuse, soit les backlights ou les panneaux réfléchissants ou les fameux parapluies argentés ou transparents. Alors, il faut reproduire ces trois sortes d'éclairage avec des moyens du bord. Alors, pour les spots, moi je préconise d'utiliser des miroirs de maquillage. Vous voyez, ces miroirs que les dames utilisent, qui sont concaves, qui grossissent un peu et qui sont orientables en général. C'est des miroirs qui font 15 à 20 cm de diamètre. Et puis il y a aussi des plus petits miroirs que les dames gardent dans leur sac à main, qui sont aussi grossissants d'un côté en général, puis plats de l'autre. On peut comme ça orienter. Moi, je les colle sur des charnières de Lego. Alors, je les colle avec du scotch double face, et puis ça permet d'orienter. Alors ça, c'est pour éclairer les petits objets. Par exemple, pour éclairer les montres, je faisais beaucoup de montres. J'avais de la fibre optique, vous savez, qui coûte très cher, qu'on mettait sur le flash, tout ça, pour éclairer, disons, surtout les cannelures du remontoir de la montre. Ben, j'ai pratiquement jamais utilisé de fibre optique. C'était beaucoup plus simple avec un petit coup de miroir réfléchissant, vous voyez. Toutes des petites choses comme ça. On peut aussi faire des spots avec un projecteur de dia. Ceux qui ont encore un projecteur de diapositive, vous pouvez mettre un cache à l'intérieur, faire un petit trou rond, petit trou carré, n'importe quoi, vous voyez. Il y a un tas de petites choses comme ça. Il y a aussi les spots halogènes, ces petits spots à pince qu'on passe sur les rayons de bibliothèque, soit 220 volts, soit en 12 volts à basse tension. Et puis alors, il y a aussi des ampoules réflecteurs incorporées qu'on utilise pour le jardinage. Alors là, il faut faire évidemment attention à la balance des couleurs. Et puis, il existe aussi des spots photos, ça vous trouvez dans les magasins de photographie. Des petits spots de 150 watts. Il y a les gros qui font 500 watts avec miroir incorporé, vous savez. Alors ça, c'est très pratique, c'est un petit investissement, mais c'est pas très cher. J'utilise aussi des boîtes de conserve que j'ouvre aux deux bouts. Il y en a qui sont blanches à l'intérieur. Alors s'il ne tient pas sur le spot, vous le valisez un peu, et puis il va finir par coincer. Alors vous, évidemment, c'est illustré dans mon livre, mais au téléphone, c'est pas la même chose. Vous arrivez à le faire tenir simplement en le coinçant, en le valisant comme ça.
Mmh.
Alors après, il y a la lumière de flotte, donc pour le portrait, par exemple, la lampe classique qu'on a, les réflecteurs ronds qui font peut-être 30-40 cm de diamètre, avec une grosse ampoule à l'intérieur. On peut très bien utiliser des lampes de bureau. Ce qui donne une très jolie lumière aussi, c'est ces lampes japonaises, vous savez, rondes en papier.
Mm-hmm.
Ça donne une lumière très diffuse. Mais tout ça, il faut essayer et puis les manipuler. Ce problème vient plutôt de la manipulation parce que il faut les mettre à la bonne place. Alors moi, je propose de prendre des montants télescopiques qu'on utilise pour faire des rayonnages, vous voyez. Et puis vous pincez les lampes là-dessus, ça coûte moins cher que ces trépieds, éclairage, manfrotto, tout ça. Hein. Ensuite, alors on tombe dans la lumière diffuse, ces fameux backlight, des boîtes à lumière. Ça, c'est un peu difficile à faire, mais on peut très bien se contenter de panneaux réfléchissants. Ce qui marche très bien, c'est moi j'appelle ça le Sagex en Suisse, ces panneaux isolants, blancs, pas légers.
En Belgique, on appelle ça de la frigolite.
Et pour les Français, je pense que ça va être polystyrène. Hein.
Mm-hmm.
C'est très léger. Faut faire attention de ne pas mettre les lampes trop près parce que ça fait fondre. Ou alors, il faut des panneaux opalescents. On appelle ça de l'opaline. C'est un peu la même matière que les tubes fluorescents, vous voyez, qu'on met au plafond. Une matière laiteuse, comme ça, transparente. Là, on trouve des panneaux dans les do-it-yourself. Là, on met la lampe derrière. Et puis ça fait des beaux éclairages diffus comme ça. Ça va très bien. Il y a aussi les tissus qu'on peut utiliser pour diffuser la lumière, mais un drap de lit. On peut aussi faire l'achat d'un parapluie argenté qu'on trouve dans les magasins de photos. Ça ne coûte pas très cher. Pour celui qui fait beaucoup de studios, je crois que c'est un bon investissement. Mais c'est surtout en bricolant des choses avec des bouts de carton argenté, des miroirs. Il faut utiliser beaucoup de bandes adhésives, cette bande qu'on utilise pour masquer quand on fait de la peinture. Ça se redécolle facilement, tout ça. Des pinces.
Beaucoup de petits matériels de bricolage, mais en final, si je comprends ce que tu dis, c'est que si ce n'est pour la praticité supplémentaire qu'apporte le matériel professionnel, on peut se lancer dans la photo de studio sans nécessairement avoir à faire un lourd investissement.
Oui, oui. Par exemple, j'avais des bras articulés, c'est Manfrotto qui faisait ça aussi.
Mmh, mmh.
Des bras articulés où on pouvait justement mettre un petit miroir au bout et puis orienter. Mais ça coûtait assez cher quand même. Alors si vous n'avez pas ça, ma foi, vous vous débrouillez autrement. Vous prenez une bouteille, vous la posez à côté, vous pincez, vous collez votre miroir avec de la pâte à modeler. Il y a des mastics de couvreurs. Vous savez, qui mettent entre les tôles comme ça. Ça résiste au soleil et tout. Et ça colle très bien. C'est souple. Vous collez votre miroir sur le goulot de la bouteille. Et puis, des petits supports comme ça, vous voyez. Avec du fil de fer aussi. En fait, un petit spirale en fil de fer. Et puis, on peut toujours se débrouiller. Hein.
Alors là, tu nous as parlé des trois grandes catégories d'éclairage. Tu nous as dit qu'on peut les recréer avec du matériel très simple, qu'on a sans doute déjà chez soi ou qui ne coûte pas cher à acquérir. Mais quand est-ce qu'on va utiliser laquelle ?
L'éclairage le plus, disons, classique, il faut peut-être commencer par ça, c'est l'éclairage flood, hein, le grand réflecteur avec une ampoule au milieu. Ça, c'est l'éclairage qui va pour le portrait, qui va pour les objets assez grands, disons des céramiques, des vases, des choses comme ça. Alors, il faut faire très attention que la source d'éclairage soit en rapport au point de vue format avec le sujet qu'on photographie. Si on photographie un bijou, par exemple, quelque chose de petit, si on met une immense lampe, le bijou va être enveloppé de lumière, on verra plus de détails, hein. Il faut que ce soit à peu près en relation. Par contre, si c'est un portrait, par exemple, il faut des lampes plus grandes, 30-40 cm de diamètre. Si on veut plus de contraste, le spot, c'est pour éclairer juste une partie du sujet. Si vous voulez faire ressortir la texture, il faut prendre un spot que vous mettez à 45 degrés à peu près, qui éclaire d'un côté, puis qui ait de l'ombre de l'autre. Hein. Ensuite, si vous partez avec ce spot et puis il y a trop de contraste, alors vous mettez un réflecteur blanc de l'autre côté. Et puis en éloignant ou en approchant ce réflecteur du sujet, vous faites varier le contraste simplement. Disons, ça c'est déjà la base. C'est la même chose avec une lumière flotte. Si vous faites un portrait, on peut faire très bien un portrait avec une seule lampe. Il suffit de bien la placer. En général, disons classiquement, légèrement sur le côté, un peu en haut, bien sûr. Et puis, le contraste, vous le régularisez avec un réflecteur blanc qui se trouverait de l'autre côté. Alors, en approchant, le réflecteur fera plus d'effet, puis en l'éloignant, bien même en supprimant complètement, alors ça sera carrément noir de l'autre côté. Et puis, le bank light, alors c'est pour des éclairages doux, qu'on fait aussi beaucoup pour le portrait, justement pour que le modèle, on ne voyait pas les défauts de la peau, tout ça. Il y a un petit truc que je donne aussi dans mon livre, si vous vous intéressez au portrait, vous regardez les photos qu'on voit dans les magazines, les couvertures, tout ça. Et puis en regardant dans la prunelle des yeux, très souvent on voit quel éclairage a été utilisé. On voit très bien si c'est un bank light qui est carré ou rectangulaire. On voit des fois le parapluie, des fois même on voit le photographe. Souvent il y a une lampe en haut ou bien un réflecteur en dessous le menton pour adoucir l'ombre sous le nez, vous voyez. Tout ça, ça se voit dans la prunelle. À moins qu'elles aient été retouchées, mais en général, ils ne retouchent pas. On voit bien ça sur les belles photos de couverture de magazine. Je crois que c'est intéressant de le faire systématiquement.
Dans le livre, tu dis en fait pas mal qu'on peut faire beaucoup de choses intéressantes avec, en final, des lampes halogènes, de l'éclairage continu, comme ça. J'ai progressé dans la maîtrise de l'éclairage en faisant des essais ici, chez moi, etc. Avant même d'avoir ton livre, j'aurais bien voulu l'avoir à cette époque-là, je m'étais acheté quelques lampes halogènes, j'ai essayé plein de trucs, etc. Un petit peu comme tu décris. Mm-hmm. Et puis, comme tu le dis, effectivement, petit à petit, on peut s'équiper un peu, on économise, on professionnalise un petit peu les choses. Et c'est vrai qu'en final, on fait la même chose, mais on le fait plus vite. Par contre, ce que j'ai trouvé personnellement, c'est que l'éclairage continu, ça chauffe très fort, il faut des temps d'exposition très longs, c'est quand même beaucoup moins confortable que le flash. Quel est ton sentiment là-dessus?
Ah, mais tout à fait. Parce que les flashs de studio, maintenant, d'abord, ils ont des lampes pilotes qu'on peut régler. Si on utilise son flash à 25%, on règle la lampe pilote sur 25% aussi. Donc, les rapports entre les différentes sources de lumière sont respectés. On voit bien ce qu'on fait. Et puis, alors, c'est beaucoup mieux au point de vue de la balance des couleurs. C'est tout à fait constant. C'est lumière du jour. C'est une lumière du jour parfaite. Mais c'est un fait que le flash, ça permet, exactement comme le tungstène ou l'halogène, avec tous les façonneurs de lumière. On a les mêmes façonneurs, on a les réflecteurs, on a tous ces façonneurs de lumière qui sont assez légers, qui sont pratiques. Alors, pour l'amateur, on prend ces petits flashs amovibles. Mais alors là, il n'y a pas de lampe pilote, hein, c'est ça le problème. Mais comme en numérique, on voit tout de suite le résultat. Vous remplacez l'ampoule par un petit flash. On voit ça dans mon livre toujours. Parce que comme ça ne chauffe pas, on peut se permettre de mettre carrément un papier calque devant pour diffuser. Ça ne risque rien, tandis qu'avec les lampes tungstène, il faut faire très attention à la chaleur. Hein. Et alors, les petits flashs, vous les connectez avec des cellules de déclenchement. Le flash de l'appareil fait partir tous ces flashs ensemble. Si vous voulez pas que le flash de l'appareil atteigne le sujet, vous mettez un petit carton devant qui va sur le plafond. Ça va très bien, j'ai eu fait jusqu'à 4 flashs comme ça. J'ai beaucoup travaillé pour les Nations Unies, j'allais dans des pays, par exemple en Afghanistan, faire des brochures sur les articles d'exportation, vous voyez, les céramiques, tout ça. Mm-hmm. Je suis allé en Uruguay photographier des fromages. Eh bien là, je prenais tout, j'avais 4 flashs Vivitar, des grosses piles de 6 volts, et puis je faisais tout comme ça. Alors je contrôlais au Polaroid, évidemment, la Solblad et puis le Polaroid. Je connaissais le nombre guide de mes flashs, je savais que si je mettais celui-là à 2 mètres, ça donnerait tel diaphragme. Puis des bouts de papier que je prenais avec moi.
Hein. Et puis l'avantage du papier, tu peux en récupérer sur place ou...
Ouais, ça on trouve toujours, parce que simplement même un simple papier de machine à écrire, ça diffuse déjà très bien la lumière. Bon, ça en perd un petit peu, mais... Et puis, ah oui, une chose, une petite recette pour colorer, parce que souvent, c'est difficile de trouver des gélatines de couleurs. Elles sont toujours des couleurs très vives. Et ça vient du fait qu'elles sont faites en principe pour le théâtre. Alors, moi, je préconise d'utiliser les fours plastiques que l'on utilise pour classer les documents. Hein, vous avez des jaunes, des verts, des bleus. Si c'est pas assez, vous en mettez 2. Vous voyez. Ça va très bien. Puis c'est tout petit. Vous pouvez les couper des petits bouts, mettre devant votre flash, coller avec du scotch ou des élastiques comme ça. Ça vous permet de colorer la lumière. Si vous devez mélanger le flash avec du tungstène, vous mettez quelque chose d'orange devant. Puis ça fait à peu près la lumière tungstène. Vous choisissez la balance lumière artificielle.
Ce que tu proposes là, c'est le flash de reportage classique. Mais si je te comprends bien, à la limite, on peut prendre... Il y a même intérêt, puisque c'est une question de prix. Et puisqu'on en a besoin de plusieurs, on peut prendre le petit flash tout à fait bas de gamme. Moins cher possible. On n'a pas besoin des automatismes, on n'a pas besoin
non.
de...
On n'a pas besoin d'automatisme, mais c'est quand même bien qu'on puisse régler la puissance. Ils ont au moins 4 niveaux. Mm-hmm. Hein, un quart de la puissance, demi-puissance, et puis pleine puissance, au moins 3 niveaux, disons. Ça rend quand même service. En général, je crois qu'ils ont tous ça, plus ou moins, les flashs.
Mais c'est pas la peine d'aller acheter le flash
le dernier
qui va avec son appareil.
Le dernier cri automatique avec la mesure TTL, je crois qu'ils appellent ça.
Mm-hmm.
Non, c'est pas nécessaire. Pour les photos de studio, pour photographier des objets, il faut toujours mettre l'appareil sur pied, hein, parce que comme ça, il bouge pas d'une photo à l'autre, ce sera toujours le même angle exactement. Alors vous faites un essai en numérique, vous regardez, vous voyez tout de suite si le flash à gauche est trop fort, vous le reculez, vous mettez un bout de papier devant ou quelque chose comme ça, vous voyez. Il faut c'est simplement avoir du jugement et puis être capable de dire, voilà, ben là, il y a trop de lumière, là, il y en a pas assez, c'est une question de goût finalement. Hein.
Maintenant, on a vu comment équiper son studio amateur à faible coût, en final, avec de la débrouillardise et de l'utilité. Et si on parlait maintenant d'un exemple très concret, et tu me proposais par exemple d'expliquer comment on fait une reproduction de tableau, qui est quand même un sujet qui paraît simple et puis qui n'est pas facile quand on s'y essaye.
Oh, c'est même pas compliqué, mais simplement il faut être méticuleux puis vraiment faire bien les choses. La première chose, il faut si possible placer le tableau sur un fond sombre, pas contre un mur blanc, parce que vous allez éclairer ce mur. Et puis la lumière du mur blanc, même s'il n'est pas inclus dans la photo, ça va faire comme un peu contre-jour un peu, hein, ça va faire un léger halo. Alors il faut s'assurer que l'objectif soit vraiment très très propre. Hein. Et puis ensuite, vous placez le tableau. On ne peut pas toujours, c'est même assez rare qu'on puisse le mettre vraiment vertical contre le mur. Hein, il est toujours un peu penché le tableau, il est tenu par une ficelle derrière, un clou dans le mur. Alors ce qu'il faut faire, donc de nouveau l'appareil sur trépied, toujours... Il faut donner la même inclinaison à l'appareil. Alors ça, vous pouvez le faire soit en vous rapprochant du mur, puis regarder à l'œil que c'est exactement la même inclinaison. Si vous avez un inclinomètre qui indique les degrés, ça se trouve dans le matériel pour les bateaux, vous inclinez l'appareil avec le même angle que le tableau. Il faut mettre l'appareil vraiment bien au milieu, hein, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Alors pour ce faire, Hasselblad a un petit accessoire qui coûte évidemment, je sais pas, peut-être 300-400 €. C'est un miroir. Si le miroir est au centre du tableau, si votre objectif se reflète centré dans le miroir, c'est que vous êtes exactement en face. Hein. Ça, c'est assez facile à comprendre. Alors, vous n'avez pas besoin d'acheter le miroir à Hasselblad. Vous achetez de nouveau un de ces petits miroirs de dame. Alors là, vous prenez le côté plat, hein, qui ne grossit pas. Vous le collez sur le tableau. Bon, il faut faire attention de ne pas abîmer le tableau, mais avec de la bande adhésive qui peut se redécoller facilement. Il y a différents... ou bien un petit mastic, quelque chose. Vous placez de manière que votre objectif se reflète au centre du miroir. Et là, vous êtes sûr que vous êtes exactement au centre du tableau. Alors ensuite, il faut l'éclairer, ce tableau. Il faut quand même avoir 4 lampes flood à réflecteur incorporé. Il en faut une à chaque coin. Hein. Il faut éclairer dans les 4 diagonales. Il faut aussi que les ampoules soient neuves pour la couleur. Si c'est pour du noir-blanc, c'est moins important. Mais il faut qu'elles soient neutres, puis surtout qu'elles aient toutes le même nombre d'heures d'utilisation, parce qu'elles jaunissent à la fin de leur période de vie. Alors il faut les placer en diagonale à environ 35 degrés par rapport au mur, hein, 45 si ça ne brille pas beaucoup. Et chaque lampe vise le coin opposé. La lampe qui est en bas à droite, elle vise le coin qui est en haut à gauche. Il faut au moins la diagonale du tableau entre le coin et la lampe hein, pour répartir la lumière parce que l'intensité de la lumière décroît au carré de la distance. Alors si vous avez une lampe qui est placée tout près du coin droit du tableau, la lumière en bas à gauche, elle sera beaucoup plus faible.
Et donc on aura les bords très éclairés et le centre pas éclairé alors.
Il faut au minimum ça pour bien répartir la lumière avec les lampes flood. Hein. Puis alors, il faut bien mesurer que la lumière soit bien répartie partout. Et alors ensuite, il y a le problème de la couleur. Pour être sûr, si c'est pour l'impression, il faut inclure une gamme de couleurs. Alors ça, vous la mettez juste à côté du tableau, vous l'incluez dans le champ de l'appareil. Comme ça, lui, il a un point de repère. Mais il faut pas... Alors, une fois, j'avais donné ce conseil à une photographe qui devait partir justement photographier des tapis au Bhoutan, vous voyez. Je lui ai dit, il faut mettre la gamme de couleurs. Alors, elle est allée au Bhoutan, puis elle a reproduit 40 tapis, je crois. Elle a mis la gamme de couleurs au milieu du tapis. Alors, non, il faut la mettre à côté, bien sûr. Il y a des couleurs qui sont plus difficiles à reproduire que d'autres. Il y a des laitons pastels, tout ça, qui sont beaucoup plus délicates. Ça dépend de toute la qualité qu'on veut obtenir. Si vous vous intéressez à la peinture, vous prenez par exemple un Degas, vous voyez, le reproduit dans un livre, puis dans une autre collection. C'est fou les différences de couleurs que vous pouvez voir d'une édition à l'autre. C'est ce qui prouve bien que c'est quand même un travail difficile.
Et puis toute la chaîne est concernée, depuis le photographe jusqu'à l'imprimeur.
Oui, c'est la communication entre tous les éléments. C'est pour ça que cette gamme de couleurs, c'est le point de ralliement, quoi.
Henri, on parle d'un autre sujet que tu avais proposé d'aborder. On prend juste là 2-3 chapitres extraits du livre, en finale, sur les bijoux brillants.
Ouais.
Alors, c'est vrai que ça, c'est pas non plus un sujet facile.
Alors, si vous regardez une cuillère bien brillante, neuve, en inox, par exemple, vous voyez bien que si vous regardez le côté creux de la cuillère, on voit pas beaucoup de reflets, hein, on se voit un petit peu dedans, comme ça. Mais si vous regardez l'autre côté, côté bombé, on voit tout ce qu'il y a autour, c'est comme un œil de poisson. Hein. Alors évidemment, quand on veut photographier un bijou, on n'aime pas voir tout ça. Hein. J'ai photographié beaucoup de robinets dans ma carrière. C'était le même problème, parce que ça brillait beaucoup, hein, c'est chromé, tout ça. Il y a des sprays qu'on peut gicler. On appelle ça des sprays mat, ça je trouve dans les magasins de photos. Il y a mat, il y a demi-mat.
Ça évite les réflexions.
Ça évite les réflexions, mais c'est un moyen facile, vous voyez.
C'est pour tricher.
C'est pour tricher. Moi, je l'utilisais des fois dans des cas désespérés sur les robinets. Mais sur un bijou, on peut vraiment pas se permettre ça. Il faut d'abord se mettre en place de nouveau sur trépied, parce que le moindre déplacement soit du bijou, soit de l'appareil, ça change les reflets. Hein. Il faut déjà bien choisir son angle. S'assurer que l'appareil n'aille pas refléter dans le bijou, c'est pas toujours possible d'ailleurs. Hein. Ensuite, vous recouvrez tout ça d'un carton blanc. Vous faites un trou pour laisser passer l'objectif. Et puis, vous éclairez par-dessous. Hein. Puis ce carton blanc va éclairer d'une manière diffuse tout le bijou. Quelqu'un qui regarde un bijou brillant, il sait que c'est brillant. Ça ne le dérange pas qu'il y ait un reflet, parce que ça bouge. Mais quand vous ne faites qu'une photo, tous ces éléments sont des éléments qui sont perturbateurs. Ou alors, il faut les expliquer. Si vous mettez un bijou à côté d'une fleur, par exemple, et puis que la rose apparaisse dans la photo, c'est tout à fait normal qu'on voie le reflet de la rose dans le bijou. Si la rose n'est pas dans la photo, et puis on voit cette rose qui se reflète dans... On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, voyez? Alors, ce qu'il faut faire, c'est de prendre une lampe de poche. Puis vous promenez votre lampe de poche à gauche, à droite, en haut, en bas. Puis vous voyez de quel côté il faut le mettre. En général, c'est un peu à contre-jour, par-dessus, voyez, pour faire un éclairage chouette. Il ne faut pas éclairer le bijou directement, il faut éclairer toujours par le carton, soit par-dessous, qui éclaire le carton qui est au-dessus, ou bien alors avec une matière opalescente qu'on met par-dessus, puis là on éclaire par-dessus. Si vous approchez la lampe, ça fait un éclairage beaucoup plus spot, hein. Ça donne peut-être plus de volume au bijou. Si vous éloignez la lampe, vous éclairez toute la surface opalescente, la lumière se répartit un peu partout, le bijou devient plus plat, plus pâle, moins de contraste. Alors, aux photographes de choisir, hein. Les photographes professionnels, on a des cônes en plastique. Bon, ils coûtent assez cher, évidemment. Alors, ce qu'on peut faire, un jerrycan de plastique, c'est plastique blanc, comme ça, sans inscription, évidemment. Vous coupez le dessus, où il y a le goulot, tout ça. Et puis, vous mettez vos bijoux là-dedans, à l'entrée. Vous mettez l'appareil devant à 45 degrés à peu près, et puis vous éclairez par derrière, toujours un petit peu en contre-jour, ça vous donne déjà un très joli éclairage.
Et puis on revient sur la discussion de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut se dire, tiens, j'investis un peu plus, mais le matériel pro ne fera jamais que gagner du temps, quoi.
Ouais, c'est ça. Les filtres polarisés, on dit que ça n'agit pas sur les surfaces métalliques. Hein.
Mm-hmm.
C'est pas tout à fait vrai, parce que quand vous éclairez... Un bijou qui brille en métal, en or ou en argent, c'est égal. Ce que vous photographiez, franchement, ce n'est pas la surface métallique, c'est le carton qui est réfléchi par cette surface métallique. Alors là, vous serez surpris, le filtre polarisé agit même sur une surface métallique comme ça.
Oui, le fait d'avoir la réflexion crée la polarisation et donc la lumière qui arrive sur le bijou, elle est polarisée à ce moment-là. C'est ça en substance.
C'est ça, oui. Le filtre polarisé marche sur des surfaces métalliques pour autant qu'elles soient éclairées d'une manière diffuse.
Une bonne astuce, une astuce à retenir.
Ouais, ouais.
Toutes ces astuces que tu mets dans le livre, justement, ça m'inspire une question. Dans ta carrière, t'as souvent bricolé comme ça des éclairages ou est-ce que c'est pour le livre que tu t'es dit, bon, je connais la technique, je vais chercher un équivalent plus abordable?
Ah oui, ça c'est une bonne question. Non, c'est pour le livre. Bon, j'ai toujours été assez débrouillé, justement, quand je faisais ces voyages en Afghanistan. J'avais deux valises américaines qui ont exactement le format maximum qu'on peut prendre dans la cabine. Alors une, il y avait un seul blad, deux, trois objectifs, des dos polaroïdes, tout ça. Un icon quand même pour faire du reportage. Et puis l'autre, c'était tous les flashs électroniques, les piles, ça faisait 25 kilos dans chaque bras. Oui. Alors je pouvais pas prendre plus que ça. J'avais tout ça, c'était très lourd, mais j'étais obligé de bricoler pour ce genre de travaux. Hein. Ça, je pouvais pas prendre tout le matériel que j'ai en studio, mais en studio, j'avais du matériel comme tous les autres photographes. Alors j'ai, pour le livre, je me suis dit, voilà, c'est ce qui va intéresser, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut bricoler, improviser surtout du matériel, en gardant les mêmes principes.
Oui, c'est ce qui est intéressant, c'est que les principes ne changent pas.
Non, les principes ne changent pas.
Et donc ça veut dire aussi qu'on peut s'essayer avec du matériel bricolé pas très cher, et puis remplacer telle pièce qu'on utilise souvent par une pièce plus professionnelle qui fera gagner un peu de temps, et on a un chemin aussi de progression en final,
ouais,
avec cette méthode.
Ah, c'est clair, ouais.
Henri, merci pour toutes ces informations, au revoir.
Merci, c'est moi qui te remercie pour m'avoir porté tant d'intérêt. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler ensemble.
Troisième segment, vos commentaires et vos réactions. Alors on commence par un élément d'agenda, les rencontres Photoshop de Marseille, qui auront lieu le vendredi 2 novembre. Important, l'entrée est payante, l'inscription est obligatoire, je vous mettrai le lien sur le blog, mais quand vous inscrivez, vous avez droit à des réductions sur certains logiciels. Pour laisser un commentaire ou un message d'encouragement, il suffit de visiter le blog www.déclencheur.com. Vous pouvez laisser un message texte, complètement gratuit, ou un message vocal à l'aide d'une messagerie vocale. Alors, beaucoup de messages d'encouragement reçus de la part de Godzilla, Gaps, Fabien, Laurent, Bibi Fricotin, Angone, Seb59, Bertrand, Robert, Jojo, LLR, Leyan, DD23, Stan, Toff, Frédéric Crozat, Yael Gif, Fabien, Sébastien et Mickey. Merci à tous pour tous ces commentaires. Je veux dire que j'en parlais encore récemment avec des confrères blogueurs qui me disaient « c'est un peu triste, on écrit et il n'y a jamais personne qui nous répond ». Et sur Déclencheur, c'est absolument pas le cas, ça fait vraiment chaud au cœur, merci. Sur l'interview avec Emmanuel Lafont sur comment calibrer son écran, dans l'ensemble, je crois que vous avez apprécié le côté très pragmatique, le côté très utile de l'interview. J'ai le plaisir d'ailleurs de vous annoncer qu'Emmanuel Lafont est d'accord de revenir pour une interview qui serait consacrée au profil d'impression. Néanmoins, un certain nombre d'entre vous ont demandé des précisions supplémentaires. C'est le cas par exemple de 406, de Romy, Franck Doyen, Vincent M, Alain Bachelier, Jean-Claude Randazzo, Kinko... Et Emmanuel a posté une assez longue réponse qui justement complète ou éclaircit les éventuelles petites imprécisions de l'épisode. N'hésitez pas à aller lire cela. J'attire également votre attention sur un commentaire de Temrock qui nous donne une série de logiciels libres qu'on peut utiliser pour les profils ICC. Quant à Gilles, il ne trouve pas Adobe Gamma sur Mac. En fait, il n'est pas installé par Adobe parce qu'on n'en a pas besoin. Sur Mac, les profils couleurs sont entièrement gérés par ColorSync, donc par le système d'exploitation. Et donc, on a un utilitaire équivalent dans le panneau de préférence système au niveau des écrans. Franca qui fait appel à l'équipe. Dans les commentaires du dernier épisode, vous vous souvenez que je lui disais « Cherche un forum où il y a une critique constructive des photos qui va être mise en place. » Et maintenant, il nous demande des adresses. Eric fait également appel à l'équipe. Il cherche un livre sur la photographie sportive. Dans les épisodes plus anciens, le mini sur les filtres de densité neutre, Jean-Yves Gruffat met l'accent sur l'utilisation de ce filtre pour son accès créatif en supprimant tous les éléments mobiles d'une photo, les personnes, les voitures, etc. Il pointe vers sa galerie où il nous montre des exemples et certains sont vraiment impressionnants. Sur le mini hyperfocal et photo familiale avec Franck, deux commentaires ont évoqué le fait que des appareils devraient gérer ça automatiquement. Pete Design qui nous dit que sur les Canon, il y a une option ADEP qui couvre la plus grande profondeur de champ possible. Quant à Photoman, il nous conseille les Ricoh GRD ou GX100 qui sont équipés d'une fonction qui place automatiquement l'objectif en hyperfocal. Énormément de réactions également à l'épisode sur l'environnement, des réactions de Nitram, de Mathieu, de Roland Mélério, de Peter, de Villard, de Papillon41, d'Yves, de Bertrand, de Colinox, de Gilles et de Patrick Cabé. Globalement, quand je lis tous ces commentaires, je crois qu'on est d'accord qu'on n'a pas aujourd'hui de mesure fiable qui nous permettent de dire si on a fait un progrès en matière environnementale en passant d'argentique en numérique. Et c'est vrai qu'il y a des questions en finale qui restent très ouvertes. Dans tous ces commentaires, je vais épingler en particulier le commentaire de Roland Mélério qui dit « Je reviens aussi sur la consommation électrique d'une action comme le blog Action Day. » C'est une bonne question. Je ne peux pas parler évidemment pour les autres blogs participants, mais dans le cas de Déclencheur, nous sommes chez un hébergeur qui est, comme on dit, neutre en carbone, c'est-à-dire qu'il a compensé ses émissions carbone. Je suis le sujet depuis assez longtemps, donc je sais que la neutralité carbone, c'est quelque chose de très très discutable comme métrique. Mais je crois qu'il faut regarder l'esprit dans lequel ça se fait. Et si on le fait pour se donner bonne conscience, ben, c'est franchement, franchement discutable. Si c'est une première étape vers d'autres actions, et par exemple, ce qui est le cas de mon hébergeur, une première étape pour mesurer sa consommation, et par là aussi pouvoir prendre des démarches pour essayer de faire baisser un petit peu les choses, ben, je crois que ça peut être très positif. Un autre commentaire que je veux épingler, c'est celui de Katsura, qui réagit à l'enquête Net Observer. Si vous ne l'avez pas encore faite, prenez quelques minutes pour aller remplir, ça nous aide vraiment. Vous l'avez compris, un certain nombre de questions portent sur l'introduction de publicité sur le blog. Et dans ce contexte, j'étais frappé par le commentaire de Katsura, qui dit « Quand tu parles d'un produit, ben, tu lui fais de la pub et ça ne me dérange pas. » Alors, je veux remettre un petit peu ce qui me semble être pour moi l'église au centre du village. Et c'est vrai que j'ai eu cette semaine quelques conversations qui m'ont surpris autour de ce sujet. Il semblerait vraiment que les avis soient très divergents. J'appartiens à cette génération qui croit que dans les médias, il faut séparer la régie publicitaire du rédactionnel. Pour moi, de la pub, c'est quand quelqu'un a payé pour avoir un espace sur le blog, et puisqu'il a payé, il y dit ce qu'il veut. Donc quand vous avez une bannière, et je crois qu'on les reconnaît quand même assez facilement, c'est quelqu'un qui a payé pour. Par contre, quand dans les parties rédactionnelles, par exemple dans l'édito tout à l'heure, je vous disais du bien des produits Jidzo, ben c'est parce que franchement, c'est des produits que j'aime bien. Avec toutes les limites de la démarche, j'ai pas essayé tous les trépieds qui existent sur Terre, donc il y a peut-être de meilleurs trépieds que Jidzo, mais il est important pour moi, je crois, que la partie rédactionnelle puisse être comme ça séparée de la partie publicitaire qui, elle, est sous le contrôle d'un annonceur. Et je termine avec deux commentaires. Un de Dati qui dit « Tiens, j'ai l'intention de m'acheter un flash de reportage pour mon EOS 350D. Est-ce que quelqu'un peut me conseiller ?» Alors, je connais pas du tout les flashs Canon, donc je peux pas conseiller un modèle donné. Mais en gros, moi, je crois qu'il y a trois règles. Un, le plus puissant possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre d'avoir un flash de reportage qui était trop puissant. Deux, avec une tête orientable et idéalement pouvant être déportée pour permettre de construire un petit peu son éclairage. Et troisièmement, si c'est un flash de reportage, ça vaut la peine de prendre un flash avec les automatismes qui va s'intégrer avec la mesure TTL. Tout à l'heure, dans l'interview avec Henri, on disait bah, il faut prendre le flash le plus ruste possible. Ça, c'est dans une logique de studio, c'est-à-dire dans une logique où on a son temps, on peut faire des mesures, faire des essais au pola ou en shootant en numérique. Mais en reportage, on n'a pas le temps de faire ça. Et donc, le flash le mieux intégré avec l'appareil bah, est une garantie de photos plus réussies. Et une dernière question de Jean-Baptiste pour, je cite, le Nikoniste que je suis. Pourquoi est-ce que le quadrillage qu'on peut afficher dans le viseur est découpé en 4 quarts et pas selon la règle des tiers? Je n'en sais rien. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à la partager. Sur un plus vieil épisode, La balance des blancs, Fred Baudet demande comment recopier la mesure de la balance des blancs d'une photo à l'autre. Eh bien, Fred, je t'invite à écouter l'épisode sur le développement des fichiers RAW dans Camera RAW qui montre la manip étape par étape. Et enfin, les premières réactions sur le duo Photo Sapiens, donc la première interview vidéo de déclencheur. J'enregistre ceci samedi soir, donc j'imagine que vous laisserez des commentaires également dimanche et lundi, mais j'aurai pas le temps pour des raisons de flux de production de les intégrer dans cet épisode-ci. J'épingle la remarque de Jean-Michel Sanglera qui dit bah, « La vidéo, elle était effectivement justifiée pour des épisodes comme le noir et blanc, mais là, pour une interview, la vidéo n'apporte rien. Et pire, je peux pas l'emporter sur mon MP3 ». C'est mon point de vue depuis longtemps. Ça fait quand même longtemps que je répète qu'une vidéo pour une interview, je suis pas convaincu que ça ait beaucoup de valeur ajoutée. Mais néanmoins, je n'arrête pas de recevoir des demandes, des commentaires me disant, tiens, mais pourquoi tu fais pas tes interviews en vidéo, etc. Donc, je fais un essai largement improvisé, il faut le dire, mais qui a eu le mérite d'apporter pas mal de leçons. J'ai maintenant un petit peu une meilleure idée sur certains points. Et l'idée, effectivement, c'est bien de trouver un cadre dans lequel ces interviews vidéo seront utiles. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner en visitant le blog www.déclencheur.com. Je veux rappeler que l'abonnement à un podcast est complètement gratuit. S'abonner à un podcast, ça signifie simplement que vous recevez les nouveaux épisodes au fur et à mesure de leur parution. À bientôt pour le prochain épisode de Déclencheur.